Vous écoutez France Culture.
Prochaine édition du journal à 9h, toujours avec Olivier Denray. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, qui était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information, c'est le secret des sources sur France Culture avec les indispensables Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Thibaut Germez ce matin dans les coulisses et avec vous, comme toujours, pour tous vos commentaires sur franceculture.fr. Elle est partout, sur toutes les lèvres, la fiscalité est au centre du discours médiatique, versant politique, avec la remise à plat annoncée par Jean-Marc Ayrault. Les consultations sur le sujet ont duré toute la semaine à Matignon. Versant social, avec les différentes manifestations liées au ras-le-bol fiscal, aujourd'hui encore en Bretagne. Et versant judiciaire, un empile après le début de l'affaire Cahuzac, avec une perquisition cette semaine chez UBS France. Ce matin, nous allons donc examiner la fiscalité sous toutes les coutures médiatiques. La fiscalité et ses traits principaux, son opacité, sa complexité, autant de défis pour le journaliste. Avec nous ce matin, Elsa Conessa, journaliste spécialisée sur les finances publiques et les questions fiscales au quotidien Les Échos. Laurent Fargue, journaliste économique pour l'hebdomadaire Challenge et pour la nouvelle revue Au Fait, pour laquelle vous signez ce mois-ci une enquête sur la forteresse Bercy. Et Emmanuel Leclerc, journaliste d'investigation à France Culture. Vous avez beaucoup travaillé sur l'affaire Cahuzac. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Avec nous également, la sémiologue Mariette Darigrand, bonjour.
Bonjour.
Et l'homme qui décrypte les images et le multimédia, Éric Chavroux, bonjour également.
Bonjour.
Le moment est venu avec la stabilité des prélèvements obligatoires, la diminution de la dépense publique, face à une incompréhension qui est montée dans le pays, que j'entends. Moi, je suis un homme de dialogue, mais j'écoute. Et je ne mets pas les problèmes sous le tapis. Et moi, je veux qu'on remette tout à plat. C'est pourquoi j'ai employé l'expression « remise à plat ». Ce n'est pas tactique. Hein. J'ai entendu, on dit que c'est tactique. La politique, c'est le mouvement. La politique aussi, c'est de savoir quand le moment est venu. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une maîtrise de nos comptes publics. On a amélioré considérablement la situation. Et en même temps, je sens monter dans le pays le doute pour ceux qui paient l'impôt, quel qu'il soit. Donc quand on arrive à ce point de difficulté, il faut prendre le problème à bras-le-corps. C'est ce que nous allons faire.
Jean-Marc Ayrault, il y a 10 jours, prenant un peu tout le monde par surprise en annonçant cette remise à plat fiscale. Alors ce sujet de la fiscalité, on va le voir, il est compliqué pour les journalistes. Et comme toujours, nous allons d'abord l'aborder par la question des sources. Qui parle aux journalistes sur les questions fiscales et qui ne parle pas? La première des sources, celle par qui, dans le cas d'espèce, l'information arrive, c'est évidemment la source politique. Sur cette question de la réforme fiscale, on est d'abord en présence d'un discours politique qui, comme toujours, on est tenté de le penser, relève de la communication. Elsa Conessa, Laurent Fargue, est-ce que vous avez eu la sensation, l'un ou l'autre, d'avoir affaire, et on va commencer par là, à une décision politique depuis 10 jours ou à une opération de communication? Elsa Conessa.
Moi, j'ai eu complètement la sensation d'une opération politique, hein, puisque le discours politique jusque-là, c'était « on arrête avec la fiscalité, maintenant on passe au chantier des dépenses, on va économiser 15 milliards par an, on arrête de bouger sur les impôts ». Jean-Marc Ayrault a pris clairement tout le monde de court avec cette annonce, y compris son propre gouvernement, y compris Bercy. Je crois que maintenant c'est relativement public. Donc c'est un pari extraordinairement risqué, hein, de vouloir reprendre la main politiquement avec la fiscalité, mais c'est quand même celui-là qui fait.
Laurent Fargue, même analyse ?
Oui, même analyse, c'est-à-dire qu'en annonçant cette remise à plat de la fiscalité, il se donne aussi quelques mois, il donne aussi des gages à la fois à la gauche, à la fois au patronat, puisque par définition, la remise à plat, on ne sait pas encore ce qu'elle va donner, donc chacun peut y voir ce qu'il veut. Donc en effet, c'est sans doute une opération assez politique qui peut aussi revenir comme un boomerang pour Jean-Marc Ayrault et le gouvernement, puisque au moment où il va falloir dire qu'est-ce qu'on met vraiment dans cette remise à plat, il y aura sans doute pas mal de mécontents.
Alors vraie réforme, stratégie ou bien coup tactique, on verra a posteriori de quoi il retournait, mais vous le disiez, ça vient de Matignon et de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que du coup ça veut dire qu'à Matignon, Jean-Marc Ayrault lui-même ou ses conseillers ont du coup beaucoup parlé aux journalistes spécialisés sur la question depuis 10 jours? Est-ce que l'information vous est parvenue par là ?
Oui, il y a eu le service. Enfin, l'information, elle est parvenue dans une interview aux Échos. Hein. Donc, il y a eu une parole publique qui a ouvert le débat. Après, il y a eu effectivement le service après-vente assuré par les conseillers de Matignon. Mais ce qui frappe, c'est qu'ils ne savent pas très, très bien quoi raconter sur le sujet, parce que c'est un chantier très, très vaste, hein, comme l'a dit Laurence. Et ça va avec des objectifs très, très flous, plus de justice, plus de lisibilité, de compétitivité, de pouvoir d'achat. Enfin, tout ça est forme une espèce de vaste bouillon dans lequel, effectivement, chacun trouve à peu près ce qu'il veut.
Les mots en IT, compétitivité,
voilà, oui,
et
puis on en rajoute. Il a commencé par parler de lisibilité, ensuite François Hollande a rajouté la compétitivité. Donc bon, tout ça est quand même encore très très flou. Donc c'est la seule chose qui ressort, c'est que c'est extraordinairement ambitieux. Est-ce que le résultat sera à la hauteur des attentes? C'est moins sûr.
Laurent Fargue, même question. Est-ce que ça veut dire que toutes les informations qui sont distillées aux journalistes arrivent de Matignon, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent par d'autres biais? Est-ce que par exemple à Bercy, où on n'est pas nécessairement très content de l'affaire, on parle? Fus off.
Oh, tout le monde peut parler dans ce genre de choses, aussi bien côté Bercy que côté Matignon. Là, c'est vrai qu'il y a eu une opération assez forte de Matignon, qui a été d'ailleurs interprétée dans Le Monde. Il y avait une une sur Jean-Marc Ayrault reprend la main sur Bercy, puisque dans la foulée de l'annonce de la réforme fiscale, il a aussi annoncé un certain nombre de nominations clés au sein du ministère, avec le directeur du Trésor et le directeur du budget. Directeur du Trésor, d'ailleurs, c'est le candidat qui était démenti assez rapidement. Et puis depuis, on ne sait pas trop s'il va finalement y aller ou pas. Donc c'est vrai que tout ça a montré que c'était en effet du côté de Matignon qu'on donnait beaucoup d'informations autour de ces sujets, mais que finalement, l'information n'était peut-être pas très fiable.
Mais est-ce que, par exemple, elle connaît ça du côté de Bercy, où, vous le disiez, il y a visiblement quand même un désaccord entre Jean-Marc Ayrault et Pierre Moscovici. Est-ce que, du coup, on fait des petits commentaires, on va dire, un petit peu pervers ou tordus aux journalistes pour démonter la stratégie de Jean-Marc Ayrault?
C'est difficile de répondre à ça. Il y a une ambiance à Bercy qui n'est pas forcément très favorable, parce qu'effectivement, ils ont été pris de court, hein, comme le reste du gouvernement, alors que c'est un sujet qui remène vraiment de leur domaine de prédilection. Enfin, la fiscalité, c'est à Bercy que ça se passe. Donc, je pense qu'ils ont tous été un peu surpris par d'avoir été tenus informés au dernier moment, comme ça s'est passé. Après, c'est des bons serviteurs. Hein, donc, la colère, elle est passée assez rapidement. Ils se sont mis en ordre de marche. Et voilà, ils ont quand même tous en vue de servir le politique. Hein. C'est quand même ce qui frappe, moi, je trouve.
Alors, pour rester sur les hommes politiques, pour première source sur ce sujet-là pour les journalistes, on a comme toujours dans la communication politique un certain nombre de formules qui à ce moment-là sortent dans les médias. On va en écouter quelques-unes. À nouveau, Jean-Marc Ayrault, par exemple, le gagnant-gagnant.
Nous allons travailler sur l'ensemble des thématiques, la fiscalité des entreprises, le financement de la protection sociale, comment faire un système gagnant-gagnant. Mmh. C'est un immense chantier.
Ou bien, à l'inverse, on a le récurrent qu'on connaît bien maintenant depuis deux mois et demi, ras-le-bol fiscal. En l'occurrence, c'est le député UMP Hervé Mariton.
Il y a un problème de trop d'impôts. Il le déplace vers un problème de quel impôt, comment l'impôt. Non, le problème, c'est pas comment, le problème, c'est combien. Moi, je n'ai jamais rencontré un seul citoyen qui me dise que l'impôt n'est pas lisible. Je rencontre tout plein qui me disent qu'il y a trop d'impôts dans notre pays.
On voit bien ce jeu habituel dans le champ politique, des formules choc un peu incantatoires, bon, mauvais, enfin bon, dichotomie, etc., très très simple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque toujours pour le journaliste? Alors, je ne parle pas tellement pour des magazines spécialisés comme les vôtres qui êtes sur le fond des sujets, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les médias principaux, les médias dominants, d'être justement uniquement sur ce jeu d'affrontement bon, méchant, et de ne pas aller sur le fond du sujet qui, lui, est essentiel? La réforme fiscale, c'est juste essentiel. Et ça connaît ça, d'être pris dans cette spirale de la formule choc.
Oui, alors, c'est certain que moi, ça m'a frappé dans le traitement médiatique de cette annonce. On avait le traitement des journalistes politiques qui trouvaient que c'était un coup extraordinairement bien joué de la part du Premier ministre, qu'il avait repris la main, qu'il y avait une espèce d'état de grâce pendant 24-48 heures. Et les journalistes plus spécialisés, comme vous dites, dont je fais partie, moi, j'ai absolument pas vu le bon coup politique. C'est-à-dire très vite, dans les services de Bercy et ailleurs, les propos qui revenaient, c'était que c'était une bombe à fragmentation. Quoi, que l'état de grâce, ça ne durait pas plus de 48 heures. Donc, il y a effectivement une différence de vision entre le journaliste politique qui voit le coup et puis les médias plus techniques sur le fond qui peut-être mesurent plus l'ampleur du chantier ouvert.
Laurent Fargue, Challenge.
Oui, juste sur les formules, c'est vrai qu'il y a une formule qui est absolument terrible, mais le problème, c'est qu'elle a été employée par le ministre de l'économie lui-même, c'est le ras-le-bol fiscal.
C'est lui qui a déclenché la tempête, on l'avait relevé dans cette émission il y a deux mois et demi.
Et là, c'est une... Sur le moment, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'était interprété plutôt comme un bon coup parce que Bercy poussait plutôt un arrêt ou des progressions d'impôts. Et maintenant, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que c'était une gaffe monumentale que le ministre en charge de lever les impôts parle du ras-le-bol fiscal des Français.
Pour les techniciens que vous êtes, pour reprendre votre formule, Elsa Conessa des Échos, est-ce que les ministres compétents sur le sujet sont techniquement compétents ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables d'avoir un échange avec vous très précis sur les questions de fiscalité ? Ou est-ce qu'ils renvoient à leur justement haut fonctionnaire et grand commis, et c'est la deuxième source, celle à laquelle on va venir maintenant ?
Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que oui, quand ils vendent un projet de loi de finances, par exemple, comme ça a été le cas là, à l'automne, ils sont assez précis, ils ont été bien briefés par leurs équipes, ils connaissent bien le texte, ils le portent, ils le défendent à l'Assemblée, donc ils ont un discours qui est très rodé et qui peuvent tout à fait tenir avec nous, l'échange est de vraiment de bonne facture. Là, sur le cas de la remise à plat de la fiscalité, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Hein. En clair, si on est dans la concertation et il n'y a quand même pas grand-chose qui se dégage, même s'il y a quelques sorties sur la fusion IRCSG, CSG progressive, etc. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de fond.
Alors, à Bercy, au ministère, ce fameux ministère de l'économie et des finances, il y a évidemment des hauts fonctionnaires qui sont des spécialistes de ces questions-là. Est-ce que, pour le coup, eux, ils parlent aux journalistes, Laurent Fargue ?
Alors, assez peu. Le haut fonctionnaire de Bercy est relativement discret et parle peu, sauf sur demande de son ministre. Donc c'est vrai que par un esprit de loyauté assez fort dans ce ministère, donc c'est vrai que pour arriver à installer une relation de confiance avec un haut fonctionnaire de ce ministère, non seulement de confiance, mais qu'après il accepte de dire un certain nombre de choses, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et même en y mettant beaucoup de temps, on n'y arrive pas toujours. C'est très dommage parce qu'en effet, il y a là souvent les meilleurs spécialistes de certaines questions. Ils ont souvent en plus un regard très acéré sur le déroulement politique de tout ce débat autour de la fiscalité. Donc d'une certaine manière, c'est dommage pour les journalistes de ne pas pouvoir plus entendre l'avis de ces gens-là. Mais il faut bien dire qu'ils parlent peu. Après, là, je parle vraiment des hauts fonctionnaires qui sont dans les services.
Que dans cette enquête pour le magazine Au Fait, hein, vous qualifiez, je crois, de moine-soldat à un moment donné, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est une expression, c'est un surnom même qui se donne entre eux. Après, dans l'entourage des ministres, il y a le cabinet ministériel avec des conseillers sur chaque sujet. Et là aussi, en accord avec le ministre, ce sont des gens qui parlent beaucoup plus aux journalistes pour justement rentrer dans le détail de telle ou telle disposition du projet de loi de finances, pour quand même besoin de détails très précis sur une mesure, le chiffrage d'une mesure, la portée d'une mesure, le nombre de contribuables qu'elle touche. Voilà, ce sont des gens qui répondent relativement facilement aux journalistes.
Vous décrivez dans cette enquête, Laurent Fargue, un espèce d'état dans l'état. Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a quelque chose, une super structure avec des super pouvoirs quand même, hein, et assez opaque malgré tout.
Opaque pour des raisons que les hauts fonctionnaires donnent assez facilement. C'est-à-dire, justement, ils mettent en avant cette loyauté vis-à-vis du pouvoir politique. Donc, ils disent que ce n'est pas à nous de parler à la place du politique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont relativement opaques. C'est d'ailleurs une opacité qui peut se retranscrire dans les rapports avec les journalistes, mais aussi dans les rapports avec les députés, par exemple, dans les relations avec les députés. On sait que quand un député a une proposition de réforme fiscale à émettre, à proposer, et qu'il veut avoir de la part de Bercy un certain nombre de données sur, là aussi, le chiffrage, le nombre de contribuables concernés, il a en général pas mal de mal à avoir directement des informations. Et là aussi, les services de Bercy, en général, disent « Moi, je veux bien vous répondre, mais il me faut l'autorisation du ministre. » Donc, c'est une forme de loyauté. L'autre argument qui est souvent avancé par la technostructure de Bercy, c'est on manipule des informations, des données qui sont assez sensibles pour le cours de bourse d'un certain nombre d'entreprises, pour le déficit, pour la note de la France vis-à-vis des agences de notation. Et donc, c'est aussi des raisons pour lesquelles ils sont particulièrement discrets et avares d'informations, de scoops ou de...
Alors, par exemple, hier, je crois que c'était hier dans Les Échos, Elsa Conessa, vous sortez ce rapport de Bercy, littéralement, sur notre sujet, typiquement sur notre sujet, puisque sur la question du rapprochement entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Donc, c'est au cœur d'une éventuelle réforme fiscale d'ampleur. Rapport qui dit en substance, c'est une mauvaise idée. Je résume. Il sort bien par quelque part. Enfin, il vous arrive bien par quelque part. Alors, c'est avec le tampon de Pierre Moscovici qui vous arrive ou bien c'est par d'autres biais?
Écoutez-moi, mon expérience en la matière, c'est que dans 100% des cas, on se trompe quand on essaie de trouver la source, vraiment 100%, la source d'une fuite. Enfin, je peux comprendre qu'effectivement, vu le timing de la publication de ce papier, ce soit perçu comme un coup politique, mais je vous dis, c'est rarement aussi simple que ça.
Mais ça veut dire quand même que vous, par exemple, vous sollicitez régulièrement des sources à Bercy pour avoir ce genre d'informations. C'est normal. Enfin, c'est votre boulot en même temps de
Ah, moi, mon métier, oui, c'est de, voilà. Bien sûr, c'est de pas seulement Bercy d'ailleurs, d'être présente dans tous les endroits où on parle de la fiscalité des lois de finances. Donc, c'est le Parlement, c'est Matignon, c'est l'Élysée, c'est Bercy, c'est le Sénat un petit peu. Enfin, oui, mon métier, c'est de coller à ces gens-là.
Comment percer l'opacité fiscale ce matin dans le secret des sources avec Elsa Conessa des Échos, Emmanuel Leclerc de France Culture et Laurent Fargue de Challenge. Dans cette culture, on va dire, de l'opacité, il y a quand même quelques îlots de transparence. Et là, on va en dire quelques mots avec notre homme du multimédia, Éric Chavroux. Le ministère de l'économie, en fait, utilise désormais un peu le multimédia pour communiquer. Ça, c'est assez nouveau.
Oui, alors il y a quelques éléments un peu basiques, on va dire, qu'on trouve sur le site internet de Bercy. Par exemple, une rubrique pédagogique qui est baptisée Facile Écho. Il y a aussi une soi-disant web TV, mais alors là qui est très décevante parce que c'est simplement une suite de vidéos. Et un centre de documentation en ligne qui s'appelle le CEDEF, où là, par exemple, on va trouver un dossier sur les principales mesures fiscales à venir. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que depuis 2 ans, Bercy cherche à chouchouter, comme ils les appellent, ses communautés.
C'est-à-dire, c'est les communautés, c'est les passionnés d'économie qui se manifestent via les réseaux sociaux auprès de Bercy, c'est ça ?
Exactement, parce qu'ils se sont rendus compte en lançant leur compte Twitter et Facebook qu'il y avait énormément de gens qui étaient passionnés par ça, qui s'adressaient à eux. Et donc, leur réponse, ça a été, et la réponse en l'occurrence du service de communication de Bercy, de lancer des cafés économiques. Alors oui, les cafés économiques, c'est comme les cafés littéraires, sauf que on parle d'économie évidemment. Il n'y a pas de rythme régulier. Il y a un blog, donc c'est bien multimédia qui lance l'invitation. Et puis donc les gens vont se retrouver à Paris, en région. Ça peut se dérouler, ça s'est déroulé même à Bercy, dans des collèges. Enfin c'est assez incroyable. Et le multimédia reprend ses droits une fois que les gens, en général c'est une cinquantaine de personnes qui se retrouvent comme ça, qui échangent. Le multimédia reprend ses droits parce que il y a des vidéos, des photos, tout ça se retrouve sur une chaîne YouTube, sur une page Facebook dédiée, et les commentaires sont ouverts au grand public.
Sauf qu'on est allé jeter un œil et que c'est quand même pas très très interactif cette affaire.
Non, alors c'est pas encore interactif en direct, on va dire, on parle de live tweet toujours, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes chez vous, vous pouvez pas poser votre question pour le moment via un mot-clé dédié, mais les 7 personnes qui travaillent au service web 2.0 de Bercy sont en train de faire des tests en ce moment, même si pour l'anecdote, les ministres, eux, ils ont déjà droit à tout ça parce qu'il semblerait qu'ils en soient tout à fait friands et que dès qu'ils veulent faire des annonces ou des apparitions, alors là, en revanche, ça se fait comme il se doit.
Je voudrais qu'on écoute à présent un autre haut fonctionnaire qui, lui aussi, a affaire avec la fiscalité. C'est le haut fonctionnaire des douanes. En l'occurrence, l'homme qu'on va entendre, c'est Thierry Picard. Il est interpellé assez vivement lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac l'an dernier par le rapporteur de la commission, Alain Claisse, sur le fait de savoir s'il avait eu connaissance par le passé des agissements fiscaux troubles de l'ex-ministre du budget. On écoute et puis on décrypte après.
Mes questions, je souhaite les poser quand même, Monsieur Picard, malgré vos explications. Alors, très concrètement, est-ce que vous avez eu connaissance dans, et je ne parle pas de date, vos fonctions passées, d'éléments relatifs à la situation financière ou fiscale de Jérôme Cahuzac ? Et si oui, quand et dans quelles circonstances ?
Ah, si vous me le permettez, Monsieur le rapporteur, avant de répondre de façon... De répondre à votre question, peut-être que je pourrais faire ce que je proposais tout à l'heure, c'est de présenter rapidement l'activité de la 4e d'enquête que je dirigeais.
Mais pour la carte, après vous allez la présenter.
Non mais c'est important.
Est-ce que à cette question vous pouvez me répondre clairement ?
Je ne peux pas répondre clairement à cette question.
Pour quelle raison ?
Tout simplement parce que le travail habituel de la division d'enquête que je dirigeais...
Bon, voilà, l'audition doit durer une bonne demi-heure et tout est un peu sur ce ton-là. On sent les parlementaires irrités, le haut fonctionnaire qui tergiverse, qui hésite, qui ne répond pas vraiment. Vous la connaissez bien cette audition, Emmanuel Leclerc. Elle est quand même assez révélatrice d'une certaine opacité de la haute administration fiscale.
Complètement. D'ailleurs, c'est une audition qui est passée assez inaperçue au début du mois de juin. Et effectivement, on découvre quelqu'un qui affirme devant la représentation nationale qu'il ne peut pas parler, qui se réfugie derrière son statut de haut fonctionnaire, alors qu'il était question d'un ministre qui a trahi la République. eh bien, M. Thierry Picard a refusé effectivement catégoriquement de répondre aux députés. Il les a même baladés pendant, on le voit là, ça dure quelques secondes, mais en fait, c'est de très longues minutes.
C'est comme ça pendant de très longues minutes. À chaque fois, il détourne, il contourne, il ne répond pas vraiment.
Ah oui, c'est étonnant. Et alors, justement, puisque vous passez cette interview, cet extrait de l'audition de M. Thierry Picard, eh bien, on est plusieurs journalistes à avoir voulu contacter M. Picard juste après, lorsque son nom est apparu dans les médias. On a été quelques-uns à vouloir l'appeler, évidemment. Tout de suite, ça a été impossible. Moi, je suis passé par le service de presse de Bercy. Je suis allé à Montmorency, puisque M. Picard est également adjoint à la mairie apparentée socialiste de Montmorency, dans le Val-d'Oise. Et là, aucune possibilité d'accéder à ce monsieur qui, devant les députés, d'ailleurs, a répondu que... Bien sûr, il aurait pu parler aux journalistes, mais c'était absolument impossible. Et là, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Laurent Fargue. Et d'ailleurs, quelque part, ça me rassure quand on voit des journalistes spécialisés qui ont déjà du mal à accéder à des personnages comme ça. Alors, vous imaginez sur des histoires sensibles, quand en plus ça concerne un ministre qui était en fonction encore à l'époque. Là, c'est une muraille de Chine qui est absolument infranchissable.
C'est révélateur de ces enquêtes fiscales sur lesquelles on ne sait pas grand-chose, parce que voilà, on ne sait pas, on va dire vrai, qui les conduit, quand elles sont conduites, quels en sont les résultats. Enfin, tout ça est un univers qui reste presque inaccessible.
Déjà, il faut tracer l'organigramme. Ça, déjà, c'est assez compliqué quand il y a plusieurs services d'enquête. Monsieur Thierry Picard, a priori, à l'époque où il aurait été susceptible d'avoir entre les mains le dossier de Monsieur Cahuzac, dirigeait le service S4, qui depuis a évolué, mais je ne sais pas combien de fois, évidemment, en fonction des changements de majorité. Donc, tout ça est très compliqué. Des enquêteurs qui ont une carrière, donc qui ont également changé, qui des fois ont quitté les douanes. C'est vrai que tout ça est extrêmement difficile à pénétrer.
Alors parlons de ces enquêteurs, parce qu'évidemment c'est une autre source possible sur la fiscalité, les enquêteurs de tout type d'ailleurs, enquêteurs administratifs, magistrats, douaniers, policiers. Encore un exemple sur l'affaire Cahuzac, toujours lors de la commission d'enquête parlementaire, l'un des hommes qui a déclenché l'affaire, l'ancien inspecteur des impôts Rémi Garnier.
Moi, je suis en mesure de vous livrer les noms d'une dizaine de personnes qui étaient au courant ou auraient dû l'être, si elles avaient fait correctement leur travail, depuis 2008, 2011, 2012. Pour ces gens-là, les révélations de Mediapart n'auraient pas dû être une découverte le 4 décembre 2012, puisque vous avez évoqué tout à l'heure mon mémoire du 11 juin 2008, et il est passé entre un certain nombre de mains.
Alors, voilà quelqu'un qui brise l'omerta. C'est vrai que dans l'affaire Cahuzac, on en a eu quelques-uns qui ont un peu brisé l'omerta, quand même, Emmanuel Leclerc. Enfin, oui, est-ce que ça s'est refermé derrière?
Oui, alors le problème, c'est que M. Garnier a livré le nom de M. Picard. Le problème, c'est que Rémi Garnier, depuis le départ dans cette affaire, sur les faits précis, a divergé à plusieurs reprises. Donc tout ça aussi a créé de la confusion, notamment sur son enquête au départ, sur Jérôme Cahuzac, quand il a parlé du Maroc. Voilà, a priori, il n'avait pas de preuves, il n'avait pas de billes, comme on dit. Donc résultat, c'était une source, malgré tout, pas forcément très fiable pour les journalistes qui ont travaillé sur cette histoire.
Plus largement sur les questions d'évasion fiscale, évidemment, il y a des gens qui en savent beaucoup. Généralement, ce sont les douaniers. Mais les douaniers, ils ne sont pas réputés parler nécessairement beaucoup aux journalistes.
Ah mais c'est pire! C'est pire que les hauts fonctionnaires dont parlait Laurent Fargue tout à l'heure, parce que là, vous êtes en plus dans un milieu très proche des milieux du renseignement. Donc là, la culture du secret est évidente. Et puis surtout, ce sont des personnes qui peuvent être amenées à travailler sur les dessous et les petits secrets des très grandes entreprises françaises, des personnes les plus riches de ce pays. Donc là, forcément, vous pouvez très vite toucher à la sécurité nationale. On peut le voir dans le cadre de l'affaire Renault, par exemple.
Un autre traité qui est intéressant et qui était intéressant cette semaine dans une autre catégorie d'enquêteurs, ce sont les magistrats. Ce retraité, c'est Jean-Louis Nadal, procureur général près de la Cour de cassation, enfin ex-procureur général, qui remet un rapport cette semaine sur la modernisation de l'action publique. Et dans ce rapport assez touffu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait qu'il veut remettre en cause le fameux verrou de Bercy. On peut rappeler ce que c'est que le verrou de Bercy, parce qu'on est en plein dans notre sujet, Emmanuel Leclerc.
Le verrou de Bercy, c'est la capacité pour un ministre du budget de juger par lui-même de la nécessité ou non de renvoyer devant la justice des infractions commises par des contribuables. soit des fraudes fiscales classiques, des abus de biens sociaux à l'intérieur des entreprises, ou des personnes, des contribuables qui se font piquer la main dans le sac avec un compte dans un paradis fiscal non déclaré.
Je voyais opiner du chef, Elsa connaît ça, cette histoire de verrou de Bercy, elle est quand même un peu au cœur aussi du dispositif.
Oui, c'est un sujet qui est régulièrement remis sur la table par les parlementaires, par les magistrats. Il y a régulièrement des arbitrages entre la justice et Bercy. Là, dernièrement, l'Élysée a tranché en faveur de Bercy. Après, c'est vrai que les chiffres montrent que ça ne fonctionne pas si mal que ça. Donc on sent qu'il y a une histoire de frontière, quand même, que les magistrats aimeraient bien aussi avoir ça dans leur précaré, et qu'évidemment les gens de Bercy n'ont pas envie de céder. Mais manifestement, des enquêtes qui ont été faites, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Donc c'est, je pense, ce qui a prévalu jusque-là, enfin, ce qui explique que ça n'ait pas évolué.
Avant de donner la parole à Marie Darigrand dans quelques instants, un mot encore sur quelques autres sources. Par exemple, les syndicats qui ont défilé cette semaine à Matignon, que ce soit les syndicats de salariés ou le MEDEF de l'autre côté. Est-ce que ce sont pour vous des sources utiles, y compris techniquement sur la fiscalité, ou est-ce que de votre point de vue, ces sources-là sont trop idéologiquement marquées parce que défendant un précaré, pour faire simple. Elle, ça connaît ça, Laurent Fargue?
Oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les sources, il y a quand même beaucoup de sources sur ces sujets-là. Il y a les avocats fiscalistes, il y a les syndicats qui peuvent aussi avoir leurs experts fiscalistes et qui ont, qui peuvent avoir en effet leur idéologie, mais qui ont aussi qui peuvent donner des informations très fiables. Il y a le fameux syndicat des impôts qui aussi régulièrement décrypte les mesures fiscales du gouvernement. D'ailleurs, ça fait hurler parfois certains ministres, mais c'est aussi une source qui est largement utilisé par les journalistes. Et ensuite, vous aviez aussi toute la sphère parlementaire qui est aussi une source très importante, puisqu'il y a beaucoup de députés spécialistes de ces sujets qui là aussi décryptent et ont beaucoup d'informations fiscales.
Comment percer l'opacité fiscale ce matin dans le secret des sources sur France Culture? Vous commentez, vous complétez, vous critiquez comme toujours sur les réseaux sociaux et sur franceculture.fr. Dans un instant, le regard de la sémiologue Mariette Darigrand. Et puisqu'on parle d'argent ce matin dans le secret des sources... Trop cher, téléphone en 1980. On s'est placé depuis le début de l'émission du côté des différentes sources qui peuvent alimenter le travail des journalistes. On va se placer maintenant du côté des journalistes pour essayer de comprendre comment les journalistes fonctionnent face à ce défi de la fiscalité. Marie Darigrand, vous êtes, je le rappelle, sémiologue, membre de notre cercle d'observateurs des médias. Le premier élément frappant, c'est le vocabulaire utilisé par les médias. Et on va commencer par le mot générique. Et ce qui est frappant, c'est que fiscalité ou fiscal a pris la place de impôt. Et ça, symboliquement, ce n'est pas un détail.
Absolument. Là, vraiment, on a assisté historiquement à un passage. Hein, dans le vocabulaire, ce n'est pas tout le temps. Et nous avons été spectateurs de quelque chose. Le vieux mot, le mot d'antan, le mot populaire, c'est impôt. Alors, impôt, on n'aime pas, mais enfin, c'est là, c'est au centre. Et puis, depuis quelques années, on parle de fiscalité. Et alors, peut-être que ça a commencé avec bouclier fiscal. Et donc, ensuite, cet adjectif-là s'est appliqué absolument à tout, avec une grande créativité, hein, métaphorique, hein, quand même, parce que évasion fiscale, paradis fiscal, niche fiscale, on se croirait dans un roman de SAS, vous voyez. Gérard de Villiers a disparu, mais son esprit est là, c'est quand même amusant. Bon, il y a quelque chose, un peu de la bagarre. jusqu'à, évidemment, cette parole un peu étonnante de la part d'un ministre ras-le-bol fiscal.
Pierre Moscovici qui évoquait Laurent Fargue.
Voilà, mais d'autres ont dit révolution fiscale. Enfin, on sent que ça, c'est sans arrêt. Et quand le Premier ministre parle de remise à plat fiscale, là, d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est cette chose-là, on se demande, hein. Mais on voit bien que c'est le qualificatif qui crée la notion. C'est assez rare, ça, dans le vocabulaire. On oublie l'impôt, c'est-à-dire la problématique citoyenne, si l'on veut, pour aller vers quelque chose qui crée, d'une certaine manière, un ovni, un objet bizarre. Qu'est-ce que c'est une remise à plat fiscale ?
C'est-à-dire qu'on passe de la logique, j'allais dire, 1789, enfin, etc., voilà, à une logique plus entrepreneuriale, technocratique, c'est ça que vous voulez
c'est
dire ?
C'est ça, c'est-à-dire que de toute façon, l'impôt, on pourrait dire, l'impôt, c'est de l'ordre de la, du citoyen en relation avec le social. C'est une solidarité imposée. On râle contre, mais bon, on y va. Alors que la fiscalité, c'est de l'ordre de l'entreprise. On passe d'un paradigme de l'individu, si vous voulez, en lien avec la société, à un paradigme de la technicité de l'économie. D'ailleurs, vous-même, les journalistes qui êtes ici, vous êtes des journalistes extrêmement experts, très techniciens, du côté plus de la marche économique que de la consommation du social. Donc c'est vraiment un changement. Alors on peut l'analyser de différentes façons. On pourrait dire que nous sommes tous aujourd'hui des petites entreprises. L'idéologie générale nous amène à cela. Des marques, on a des stocks, on a des flux, on a des rentrées, des sorties. On ne parle pas aujourd'hui, par exemple, de pouvoir d'achat. C'est une vieille chose, le pouvoir d'achat, on n'en parle plus du tout. Ça, c'est du côté de l'impôt et de l'individu. Du côté de la raison économique et financière et de la performance entrepreneuriale, eh bien, il y a ce vocabulaire de la fiscalité.
Intéressant quand même ces mots, vous les évoquez, qui sont conjugués avec le qualificatif fiscal. Hein, oui. Ils sont quand même tous un peu connotés dans le même sens. C'est-à-dire l'évasion, le paradis. L'évasion fiscale consiste à s'évader de la prison de l'impôt.
C'est un vocabulaire très métaphorique, assez populaire. C'est intéressant du point de vue de l'étymologie parce que le mot abstrait, en fait, c'est impôt. C'est un participe passé, c'est une abstraction. Alors que la fiscalité repose sur un petit étymon. Le fisc, c'est le petit panier dans lequel, dans le monde romain, on recueille l'argent. Et je me suis demandé, en préparant cette émission-là, s'il n'y avait pas une sorte d'inconscient collectif de mémoire malgré nous, quand il y a quelque part une origine concrète comme ça et quotidienne, le petit panier avec l'argent, bien notre esprit, notre mémoire crée comme ça des objets concrets parce que on s'amuse avec le vocabulaire quand on s'imagine dans en évasion fiscale, en niche, en paradis, etc.
Ça connaît ça, les Échos, Laurent Fargue, Challenge, Emmanuel Leclerc, France Culture. Vous avez l'impression comme ça, juste par le biais du vocabulaire, de participer d'une orientation, une forme d'orientation idéologique. Ça connaît ça. C'est intéressant ce que soulevait Mariette Darrigon à l'instant.
Oui, alors sachant que, comme vous le savez, en presse écrite, on est souvent réécrit. Donc les titres qui sont publiés ne sont pas forcément ceux qu'on a choisis. Et tout ça se double aussi d'une nouvelle contrainte. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce sujet, mais on a un souci de référencement Google maintenant. Et paradoxalement, la fiscalité, c'est mal référencé sur Google, alors que impôt, ça fait vendre, enfin je veux dire, les articles remontent très bien avec le mot impôt. Donc c'est vrai qu'on a sans doute tort d'utiliser ce mot, comme vous le disiez, qui est...
Si en plus c'est pas bien.
Ben
c'est
oui,
il faut revenir à l'impôt voilà, alors.
Bercy, par exemple, c'est pareil. Bercy, c'est très
fiscal,
mal référencé.
Tu l'impôt.
Il y a le vocabulaire de l'écrit, il y a le vocabulaire de l'image aussi. Et là, je me tourne à nouveau vers vous, Éric Chavreau, parce que vous décryptez chaque semaine quelques images d'actualité dans Le Secret des Sources. Là, l'élément frappant des 10 derniers jours sur le traitement de la réforme fiscale dans les médias en termes d'image, c'est le nombre très important de photos politiques qui sont censées illustrer la compétition qu'on évoquait tout à l'heure, voire le désaccord entre Jean-Marc Ayrault et Pierre Moscovici. Et ça, c'est flagrant dans la presse écrite et même audiovisuelle ces 10 derniers jours.
Oui, et un exemple marquant trouvé sur le site internet de la Tribune, c'est une photo de Pierre Moscovici qui est
On l'a sous les yeux là dans le studio, hein, on peut la regarder ensemble.
Voilà, on la trouvera sur notre page. Pierre Moscovici qui est donc en retrait du Premier ministre et qui lui jette des yeux absolument noirs, parce que l'attitude, alors c'est porteur de sens évidemment, d'abord l'attitude comme ça des gens qui nous font face, elle signifie, elle transmet, et puis c'est renforcé par une autre arme éditoriale, si je puis dire, c'est le positionnement de chacun, l'angle de prise de vue. Donc le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est devant, il cache même un peu Pierre Moscovici, mais en même temps, parce que tout ça évidemment est combiné, il y a une dernière arme qui est celle de la mise au point. Et en l'occurrence, le jeu avec les flous, c'est-à-dire que le Premier ministre est flou, mais Pierre Moscovici, lui, est parfaitement net. Et donc, en l'occurrence, on sent que sa colère ou son ressentiment est tout à fait clair. Autre exemple, sur une autre photo, cette fois en une du Monde.
La semaine dernière, hein, c'était une semaine à peu près, oui.
C'est Bernard Cazeneuve et toujours Pierre Moscovici. Le même schéma, Bernard Cazeneuve en premier plan, flou, et puis le ministre de l'économie derrière, tout à fait net, et pour illustrer l'imbroglio des nominations à Bercy.
Mais là où ça pose problème, c'est que c'est quand même un peu artificiel cette affaire, parce que ces photos-là, enfin, c'est la légende qui est plaquée dessus qui leur donne leur sens.
C'est la légende et c'est la date aussi. Parce que ce que j'ai découvert sur le site de Capital à propos de la première photo, Pierre Moscovici versus Jean-Marc Ayrault, c'est que cette photo date de fin janvier. Et que donc, elle illustre un article, là, de ces derniers jours.
Est-ce que... Petit problème déontologique, quand même, hein, à la clé. Hein.
Voilà. Et on se rend compte qu'avec le web et avec l'information en continu, de plus en plus, tout de même, la date a tendance à sauter des légendes des photos. Et là, c'est gênant. Hein.
Alors, tant qu'on est dans les problèmes déontologiques, et puisque vous prononciez tout à l'heure, Laurent Fargue, le mot niche fiscale, il y a quand même un sujet qu'il faut bien mettre sur la table les uns les autres, c'est la question de la niche fiscale des journalistes. Parce qu'on le sait, les journalistes font donc partie de ces privilégiés qui ont un abattement fiscal de 7650 euros par an. Pour les quelques 20 000 journalistes qui sont imposables, c'est-à-dire les deux tiers de la profession à peu près, est-ce que, ça ne rend pas les journalistes juges et partis sur ce sujet? Elsa connaît ça. Ça vous laisse songeuse.
Oui, je ne sais pas. Non, mais c'est difficile de faire la corrélation entre la façon dont on traite les sujets et comment on est concerné à titre personnel. Enfin, moi, je suis dans un journal où, globalement, on plaide plutôt pour une réduction des dépenses, une réduction des niches fiscales, etc. Et de fait, on est tous bénéficiaires de cette niche. Hein. Donc, je vais avoir du mal à argumenter dans ce sens. Après, bon, ce n'est pas la niche la plus coûteuse, donc on n'est pas non plus complètement en porte-à-faux.
50 millions d'euros, à peu près.
C'est assez ça, peu, oui, par rapport dans le classement des niches. C'est vraiment, ça figure même pas dans le top 20, je crois. Ce qui n'est pas une raison, hein, je veux dire, ça ne suffit pas à la justifier. Mais malgré tout, ça ne suffit pas non plus à nous mettre en porte-à-faux pour traiter ces sujets-là, je pense.
Laurent Fargue, honnêtement.
Alors, très honnêtement.
Non, mais c'est une vraie question. Les auditeurs nous la posent d'ailleurs régulièrement et ils ont raison.
Oui, il y a d'ailleurs aussi régulièrement des espèces de messages sur Internet qui disent qu'il y a un complot entre les politiques et les journalistes sur le fait de cette niche. Moi, je ne pense pas du tout que les journalistes soient influencés dans leur manière de parler des niches fiscales par le fait qu'ils en bénéficient d'une. De toute façon, même si on supprimait celle-là, il y a bien d'autres niches fiscales dont les journalistes peuvent aussi bénéficier, comme beaucoup de Français, comme la TVA réduite quand on fait des travaux de son logement, ou tous les dispositifs pour les aides à la garde d'enfants qui
mais
sont
c'est
aussi.
C'est pas une niche spécifique à la.
Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est des niches dont les journalistes peuvent aussi bénéficier. Enfin, donc.
Parce qu'on serait tenté de dire, après tout, alors peut-être ça poserait un problème de pouvoir d'achat dans la presse et pour les journalistes, etc., parce que ce n'est pas des salaires mirobolants dans la presse, mais à côté de ça, ça cesserait de polluer le débat si cette niche fiscale était supprimée, malgré tout. Elsa connaît ça. Et Emmanuel Leclerc. Allez-y.
Oui, non, sans doute. C'est une niche fiscale qui est difficilement défendable dans le contexte actuel où globalement, on essaie de réduire les niches, y compris les niches pour aider les gens qui ont des nounous à domicile ou baisser les réductions de TVA. Je ne sais plus ce que je veux dire.
Non, est-ce qu'il ne faut pas la supprimer pour que ça cesse de polluer le débat, tout simplement?
Si, certainement.
Parce que ça jette de fait une forme de discrédit.
À titre personnel, je ne pourrais pas descendre dans la rue pour me défendre cette niche. Enfin, il faut être cohérent. Hein,
Emmanuel Leclerc?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'opacité. Elle est de 7 650 euros pour tous les journalistes. Il y a encore quelques années, c'était 30%. Donc forcément, pour les très gros salaires, ça faisait une somme bien supérieure, notamment les patrons de presse. C'est ça qui était très critiqué à l'époque. Et puis, on ne savait pas ce qu'on y mettait dedans. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez à 30% sur des gros salaires, il faut pouvoir dire que c'est l'équivalent d'un VRP qui déclare son costume, ses chemises, son pantalon, son ordinateur. Et à 7 650 euros, vous pouvez essayer. Moi, je me suis amusé en me disant, bah, tiens, si je déclarais chaque année tout ce que j'utilise pour mon travail et qui pourrait être déduite comme n'importe quel VRP, puisque c'est ça qui avait présidé à ce choix. On y arrive, hein, pas très loin, effectivement. Alors peut-être c'est moins, un peu plus, mais en tout cas, il y a moins d'opacité et il y a moins de scandales qu'en tout cas à l'époque où c'était 30% de déduction.
Alors, il y a un autre défi qu'on a en partie évoqué dans la première partie de l'émission, autre défi pour les journalistes, c'est le défi du diptyque simplicité-complexité sur ce sujet. On va écouter, par exemple, notre confrère Jean-Michel Apathy sur RTL, il y a une semaine.
C'est juste mon avis, Jean-Michel Apathy.
Alors Jean-Michel, Jean-Marc Ayrault a annoncé une remise à plat du système fiscal pour le rendre clair et transparent d'ici à 2015. Pardon, mais est-ce que c'est possible ?
En rêve, oui.
Même pas en rêve. Ça, c'est la tentation de la réponse simple. La réforme fiscale, c'est pas possible, même si, il faut le reconnaître, Jean-Michel Apathy développait ensuite, évidemment, dans sa chronique, un argumentaire plus développé. C'est vrai, Mariette Darrigan, que sur ces sujets de fiscalité, on sent les gens se partager entre faire soit très simple, soit très compliqué.
Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est bon. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est difficile sur un sujet aussi complexe, aussi technique, de faire de la bonne pédagogie. Mais néanmoins, il y a un grand besoin de ça parce que c'est pour le lecteur, l'auditeur, etc., l'internaute, c'est compliqué à comprendre. Alors, les journalistes ne font pas tellement leur pédagogie habituelle, par exemple, qu'ils peuvent avoir sur des sujets de société ou des sujets de santé, où on sent que là, il semble que ce soit plus difficile pour vous hein, de nous expliquer en quelque sorte. Par exemple, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle, il y a quelque chose de simple à comprendre que je n'ai pas vu, hein, vraiment expliqué dans les médias, c'est le moment où l'impôt cesse d'être progressif. Il est progressif jusqu'à la fin des classes moyennes supérieures, puis tout d'un coup, il semble qu'il ne soit pas... Bon, j'ai vu ça quelque part dans une des explications.
Sur les très hauts salaires, ils ne soient pas aussi
voilà,
progressifs.
Voilà, tout d'un coup. Alors, je dis ça, c'est quand même assez simple. C'est un petit peu, si vous voulez, tout d'un coup, comme quand il y a des choix, disons, manichéens, plus pour ou contre, on se demande pourquoi la presse n'a pas fait ça. Ou alors, elle l'a fait, comme dit Jean-Marc Fourlat, de manière totalement... il y en a trop, ras-le-bol
fiscal,
etc. Oui,
le classique, trop d'impôts ou pas assez.
Mais il n'y a pas eu des pour-contre, des polémiques, comme pourtant la presse sait bien en faire au sens des matchs. On n'a pas vu ça.
Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut maîtriser toute la technicité au départ.
Sûrement. Oui,
avant d'en revenir à une question simple.
Oui, comme le font les grands chefs aujourd'hui, par exemple. Et ça me faisait penser à ça. Je me suis dit, le journaliste est comme un grand chef aujourd'hui qui pourra, pour faire sa soupe à la châtaigne, dont vous avez l'impression qu'elle est extrêmement simple, vous explique qu'il a mis 5 ans à la faire en passant par des ingrédients qui viennent du Japon, des technologies de four, etc. Et donc, nous sommes dans un moment où la simplicité est obtenue après diverses opérations technologiques. Donc, on aurait envie que cette analogie serve aux journalistes sur des sujets aussi techniques que celui de l'impôt, de la fiscalité aujourd'hui. On sent bien que c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas nous dire simplement oui, non, bon voilà, des petits schémas, des petits chiffres, comme dans les années Giscard, on faisait ces chiffres au tableau. On a dépassé largement, donc Apathy a raison de dire que d'une certaine façon c'est inexplicable. Mais du coup, ça pose, on ne voit pas où sont les vraies questions, les vrais enjeux.
Alors, il y a un double questionnement dans ce que dit Mariette Darrigan à l'instant, Laurent Fargue, Elsa Conessa, Emmanuel Leclerc, c'est le premier volet, c'est la nécessité de posséder l'expertise technique. Est-ce que les journalistes spécialistes de la fiscalité et des finances publiques sur la place de Paris possèdent l'expertise technique ?
Je pense que oui. Ça, moi, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment un enjeu. À partir du moment où on est de bonne foi et qu'on travaille, je veux dire, on se fait une expertise assez rapidement. De toute façon, on n'est pas là pour donner son avis. Hein. On est là pour expliquer. Donc, et puis, il ne faut aussi pas oublier que il faut se mettre dans la peau du lecteur. Quoi. Donc, le lecteur, il n'est pas expert. On ne parle pas qu'à des experts, même si ça peut peut-être donner ce sentiment-là. Le résultat peut donner ce sentiment-là. Moi, je pense que par rapport à ce que vous disiez, il y a une difficulté aussi, je pense, qui est liée au manque de données. Il y a des données très simples qui permettraient d'expliquer l'impôt, d'expliquer où sont les grandes masses, qui payent quoi. Par exemple, il y a toujours cette rhétorique sur le fait que les grandes entreprises payent moins d'impôts que les petites. Ça repose sur des chiffres qui ont 5 ans, en fait. Une petite note éditée par Bercy dans une note interne qui doit faire 2 paragraphes. Et depuis, on n'a rien, en fait. Sur un sujet aussi stratégique que celui-là, sur lequel on a construit une bonne partie des derniers projets de loi de finances, on n'a rien comme données. Voilà. Et donc, je sais que moi, ça me gêne dans mon travail, de ne pas pouvoir expliquer simplement aux gens voilà, qui paye combien, un truc un peu sociologique quoi, qui permettrait de comprendre.
Laurent Fargue, sur l'expertise technique et après la capacité à la rendre pédagogique.
Oui, l'expertise technique, on la tire aussi justement des multiples sources qui vous parlent de ces sujets-là et des multiples expertises qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Sur la capacité, en effet, à rendre simple des choses qui sont parfois très compliquées. Bon, ça, c'est un peu le talent de journaliste, mais c'est vrai que sans doute, parfois, à la fiscalité, il y a des choses qui sont vraiment extrêmement compliqué. Il y a une autre
Il y a aussi quelques débats simples, excusez-moi, mais enfin, taxer plus ou moins la consommation, taxer plus ou moins le travail, taxer plus ou moins le capital, prélever à la source ou pas, bon, derrière c'est compliqué, d'accord, mais au départ il y a quand même aussi des questions simples.
Oui, c'est ça, mais entre taxer les entreprises ou taxer les ménages, moi j'entends assez bien l'argument de dire, bah, finalement, si on taxe les entreprises, ça va peut-être se reporter sur les salaires des ménages. Enfin, donc les débats ne sont pas aussi simples que ça. Il y a une autre difficulté très forte avec la fiscalité, c'est qu'entre l'annonce du projet qui est faite par le gouvernement à un moment et son application effective, ce qu'elle va coûter, le nombre de gens qu'elle va concerner, il y a souvent une distance assez forte parce que les politiques eux-mêmes ne savent pas toujours très bien anticiper exactement les effets d'une mesure fiscale.
Un mot encore, Emmanuel Leclerc, sur cette complexité des situations. Alors, quand on est sur l'investigation et l'évasion fiscale, là, alors là, il faut tout connaître des paradis fiscaux, des banques, des fausses banques, des
Anstalt,
etc. Mais
des fois, c'est plus facile que la fiscalité française, parce que là, pour le coup, j'avoue que moi, voilà, je suis niche. Ça comme un citoyen lambda, ça me sert effectivement dans le cadre d'investigations particulières, mais j'avoue qu'on s'y perd. Et là, ces derniers jours, il y a eu plein de papiers très, très techniques, où on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de journalistes qui s'y connaissent très, très bien, mais après, pour comprendre, ça c'est autre chose. Je sais pas, moi, après il y a aussi le rapport à l'impôt. Là on parle de la fiscalité, de la réforme, mais il y a quand même le rapport à l'impôt de ceux qui le payent entièrement ou en partie. Et moi je crois que tout le problème il est là. Et puisqu'on parlait des paradis fiscaux, moi je vous renverrai au jeune économiste talentueux Gabriel Zucman qu'on a diffusé la semaine dernière encore sur France Culture et qui dit que tant que le grand public aura l'impression que certains ne payent pas l'impôt, hein, 10 milliards de TVA fraudés en France et 350 milliards l'évaluation d'avoirs fiscaux français non déclarés à l'étranger. Voilà. Il me semble que tant que ces problèmes-là n'auront pas été résolus, il y aura un problème du rapport au paiement de l'impôt, pour ceux qui le payent encore.
Comment percer l'opacité fiscale ? La conclusion, comme toujours dans le secret des sources, revient au clin d'œil de Yacine Bouzard. Yacine qui nous emmène dans la forteresse, le mystérieux, le labyrinthique Bercy, la société secrète.
Où est-ce qu'on est tombé ?
La France est la cinquième économie du monde. La France est la cinquième économie du monde. La France est la cinquième économie du monde. La France est la cinquième économie du monde.
Oh, ils sont forts !
Permettez-nous de faire les présentations d'usage. Vous avez le grand honneur d'avoir été choisi pour devenir membre de la confrérie.
Une vénérable société secrète pourvue de pouvoirs quasiment illimités.
Il n'est pas question de dénigrer ceux qui gagnent de l'argent dans ce pays. Il n'est pas question de punir ceux qui s'enrichissent. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que Jérôme Cahuzac a dit ce matin, c'est ce que je redis maintenant.
Oh, balèze ! J'adhère au club immédiatement !
Passez vite ! Nous devons d'abord vous soumettre à des épreuves d'initiation afin de savoir si vous avez les qualités requises pour devenir l'un des nôtres.
L'économie française n'a pas besoin de choc. Elle a besoin d'accompagnement. Elle a besoin de redressement.
Une fois devenu membre, on le reste.
La France
pour
est
toujours.
La cinquième.
L'heure venue, nous vous contacterons.
La France est la cinquième économie du monde.
Le clin d'œil de Yacine Bouzard. Merci à tous. Elsa Conessa, Laurent Fargue, Emmanuel Leclerc, Éric Chavroux, Marianne Darigrand étaient ce matin dans le secret des sources. Lecture particulièrement recommandée à ce numéro de novembre de la revue Au Fait consacrée à Bercy. Et puis le livre, c'était Au cœur du pouvoir, c'est ça Laurent Fargue ? Toujours consacré à Bercy. Toutes les références, bien sûr, sur le site du secret des sources, sur franceculture.fr où vous pouvez commenter, réécouter, télécharger. C'est à vous de jouer. Dans quelques minutes, après le journal d'Olivier Denray sur France Culture, réplique avec un sujet qui va faire écho à certains des thèmes que nous avons abordés ce matin, la politique à l'âge de la communication. Alain Finkielkraut reçoit Marie de Gante et Michel Schneider. Prenez soin de vous.
Il y a d'ailleurs aussi régulièrement des espèces de messages sur Internet qui disent qu'il y a un complot entre les politiques et les journalistes sur le fait de cette niche. Moi, je ne pense pas du tout que les journalistes soient influencés dans leur manière de parler des niches fiscales par le fait qu'ils en bénéficient d'une.
À titre personnel, je pourrais pas descendre dans la rue pour me défendre cette niche. Enfin, il faut être cohérent.
Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'opacité. Elle est de 7 650 euros pour tous les journalistes. Il y a encore quelques années, c'était 30%. Donc forcément, pour les très gros salaires, ça faisait une somme bien supérieure, notamment les patrons de presse. C'est ça qui était très critiqué à l'époque.